Le business.
Business of bouffe.
Business of bouffe.
C'est la culture de la bouffe. Toi, tu peux dire le mot bouffe.
Business of bouffe.
Dans le business of bouffe, c'est comme ça qu'on dit ici.
On assume complètement le mot bouffe ici.
Je suis très content de dire bouffe.
Je suis Philibert Chambre, entrepreneur et fondateur de Business of Bouffe, le podcast où on parle bouffe avec un angle business. Bienvenue dans ce troisième chapitre de notre épisode consacré à Alain Passard. Alors Alain, dans le chapitre précédent, on a évoqué la création et le développement de l'arpège. Dans ce nouveau chapitre, on va parler du virage que tu prends donc à la fin des années 90. Tu es au sommet de la gastronomie et pourtant tu prends tous les risques. Tu désires autre chose et tu vas tout changer. Alors raconte-nous dans quel état d'esprit tu es dans les années 90 et juste après l'obtention de la troisième étoile. Est-ce qu'il y a un lien d'ailleurs avec ça? Et en gros, on veut comprendre d'où vient cette envie presque brutale de changement.
C'est vrai que je sais pas, il y a eu ma relation avec l'animal mort était devenue un petit peu douloureuse, quoi. Plus d'inspiration, tu vois, j'ai envie d'autre chose. Et tombe là-dessus la vache folle.
Ouais. Donc là, on est dans quelle année pour être
fin des années 90, ça.
99.
Donc c'est 3 ans après la troisième étoile.
Ouais, 99. Tombe la vache folle, alors là.
Sacré événement, hein.
Ah ouais, donc là, si tu veux, je le vis mal. Ah ouais. Est-ce que j'avais senti le truc arriver? Est-ce que, tu vois, bon, il y avait bien sûr ça, on parlait déjà.
Il y avait des signes avant. Enfin, ce désintérêt pour la matière animale, ça date d'avant.
Ouais. Ben, ça, on en parlait quand même, hein. Bon, il y a. Et puis bon.
Mais la filière, elle était abîmée, hein.
Ah bah oui. Non, c'est...
Qu'est-ce qui te dérangeait? C'est un manque de transparence? On n'arrivait pas à savoir d'où...
Bah non, mais si tu veux, nous, on travaillait en toute confiance. Hein, ouais. Si tu veux, quand on faisait livrer un train de côte de bœuf qui venait de Rungis et tout, tu vois, on n'avait pas d'inquiétude, quoi. Hein. Et puis, un jour, on nous a quand même dit, on a tout fait pour qu'il n'y ait pas de vache folle à Rungis, mais on n'en est pas sûr. Donc, si tu veux, moi, ça m'a laissé quelque chose, une amertume, tu vois.
Tu sais plus ce que tu sers à tes clients, quoi.
Ouais, un truc, mais douloureux, quoi. Tu vois, je suis resté quelques mois sans venir travailler, hein.
Quand même.
Ah, c'est la dépression, alors.
Ah ouais, j'étais.
Ou pas loin.
J'aurais pu arrêter le métier, hein.
À ce point, d'accord. J'ai pas compris à ce point.
À arrêter?
Bah ouais, un peu, ouais. Ah ouais, s'il n'y avait pas eu cette...
À cause de la viande, ou est-ce que c'est... Parce que moi, à un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'il a pas tout simplement... Vu qu'il a atteint son Graal, la troisième étoile, bah, il a plus de moteur.
Bah ouais, non, écoute, je sais pas, j'avais quelque part envie de changer de métier, quoi. Parce que bon...
Donc c'est pas que à cause de la viande, ouais. Enfin, t'as besoin de changement.
Oui, ouais, j'ai besoin de changement.
T'as besoin de recréer quelque chose, de créer du neuf.
Exactement. Et il y a une porte qui s'est ouverte que j'attendais pas. Celle du végétal.
Comment elle arrive?
C'est une époque de ma vie avec les gens avec qui j'étais. Et moi, j'ai toujours adoré la couleur.
Ça, c'est intéressant. L'artiste.
Ah, mon petit loisir, c'est quand même, tu vois, toutes ces broderies, ce sont mes recettes que j'ai faites en collage ou en peinture.
Les broderies, hein, qui sont en train d'aller, qui habillent le petit salon.
Ouais. Où nous enregistrons, on voit.
Voûtées, alors elles sont peintes et brodées sur de la toile et ça habille l'ensemble du petit salon qui est au sous-sol.
Exactement.
Du restaurant.
On voit des champignons, on voit des fleurs, on voit des feuilles, on voit du végétal, que du végétal, et en effet du végétal très coloré.
Tout à fait.
Ce que tu peux pas avoir dans la viande. Moins.
Ah, alors justement, ouais, donc cette fenêtre s'ouvre avec mais vraiment une lumière, quoi. Et je retrouve le goût de cuire, le goût de chercher, le goût d'assaisonner, le goût d'harmoniser, et je repars en apprentissage.
Ça veut dire... Tu reprends tout, tu fais livrer des caisses de légumes et tu travailles en cuisine.
Tout. Ouais. Je repars. Il faut que je. J'avais pris ma décision. J'ai dit voilà, je veux faire de ma cuisine. Je veux faire de ma cuisine autre chose, quoi. Ouais. Je veux changer de métier. Je veux une autre histoire.
Donc on comprend là, ça a été le végétal, mais en fait, ça aurait pu être autre chose. Toi, ce que tu voulais, c'était un truc nouveau.
Oui, enfin, en l'occurrence, je reste quand même un cuisinier. Donc ouais. C'est...
Non, mais je veux dire, ça aurait pu.
Au pire, ça aurait été le poisson.
Voilà, ce que je veux dire, ça peut être le poisson, ça peut être.
Oui. Ouais. Non, mais j'ai un vrai coup de cœur, quoi. Je me pose la question, d'ailleurs, je me dis comment j'ai pu passer à côté de tout ça aussi longtemps, quoi.
Et qu'est-ce qui te plaît dans le végétal? À ce moment-là et aujourd'hui, hein, d'ailleurs.
Alors, donc,
on est
déjà,
dans l'époque contemporaine.
Ce qui me plaît, c'est déjà toutes ces couleurs qu'il y a.
Ouais.
Hein, qui sont une véritable source d'inspiration. Hein, je trouve une autre forme de créativité avec le végétal. Je retrouve le rythme des saisons.
Ça, c'est important. C'est-à-dire que ça change quatre fois par an. Quoi.
Ah, elle revient, oui. Voilà. Je vous dis qu'à la fin des années 80, ils ont oublié ça.
Ah oui.
Le végétal, le retour de la saison.
Ça, il faut le rappeler hein, qu'à cette époque-là, et on faisait certainement partie, même dans les trois étoiles, on avait de la tomate l'hiver. Enfin, de toute façon, même aujourd'hui, malheureusement, encore un peu.
Oui.
La couleur, la saisonnalité.
Ouais. Tout n'est que source d'inspiration dans le végétal. Tu vas regarder un joli panier. T'as le dessin des légumes qui est magnifique. La courbe d'une aubergine en été, tu vois. Le grain d'un chou-fleur qui te fait penser à un blanc d'œuf monté en neige, tu vois. Il y a plein de petites choses comme ça qui font que il y a une créativité qui est, je dirais, plus artistique.
Et qui est presque devant ton nez.
Ah oui, tout à fait.
Et puis c'est infini. Enfin, ouais. Il faut
aller la chercher, c'est vrai, dans une viande. D'abord, c'est monochrome, les viandes. T'as viande rouge, viande blanche. Ensuite, il faut aller chercher dans les carcasses. Mais globalement, c'est vrai que quand vous en parlez, moi-même, je n'avais pas pensé, mais même en tant que mangeur, je me dis, mais c'est vrai que ces courbes, ces couleurs,
bien sûr,
elles sont devant nous. Le végétal est beaucoup plus esthétique.
Ben oui, oui. Et puis, il y a surtout une chose d'extraordinaire, c'est pareil, qu'on a tendance un peu à oublier, c'est que le végétal nous permet de changer de métier tous les 3 mois.
Ouais, chaque saison.
Bah oui. Voilà. Je ne suis pas le même cuisinier en hiver avec du céleri et du poireau qu'au printemps avec des asperges et des petits pois ou des tomates et des aubergines en été. C'est fabuleux. Je change de métier tous les 3 mois. Pourquoi ? Moi, j'ai toujours cette énergie. Pourquoi je me plais chez moi ? Parce que justement, je respecte les saisons. Ouais. Ça, c'est merveilleux. Je trouve qu'on ne met pas assez le doigt sur cette aventure qui est vraiment d'une finesse. C'est grandiose. Et j'invite mes 5 sens tous les 3 mois à une nouvelle histoire.
Ouais. Pourquoi les 5 ? Sur le toucher, bon, on imagine.
Ouais.
L'odorat, oui, bien sûr. Ah oui. Avec les fruits, ouais. Ouais. Le goût, on va y venir.
Ouais, légumes aussi, ouais.
Le visuel, le fond de la casserole. Et le chant du feu.
Et voilà. J'avais bien qu'il y en avait un qui m'interpellait. Ouais. Ouais, le chant du feu, ouais.
Bah, quand il fait cuire une aubergine.
Donc, c'est extraordinaire. On a oublié tout ça. Je change. En fin de compte, ça serait, y a ces deux chiffres, le 4 et le 5. Le 4, les 4 saisons. Le 5, les 5 sens.
Il faut vraiment repositionner le contexte à l'époque. La cuisine légumière ou végétale, elle existe. Très peu. Bon, il y a peut-être débat sur quel est le vrai précurseur, je ne sais pas, mais à l'époque, les légumes, c'est un accompagnement, c'est tout.
C'est même pas le parent pauvre. Alors, historiquement, c'est pas que c'est le parent pauvre de la cuisine française. Si tu prends les grands volumes qui ont fait la cuisine française, elle est là. Mais c'est à peu près toujours les mêmes légumes, souvent les mêmes cuissons. Non, alors là, soyons clairs, il n'y a rien du tout. Ils sont jamais... à côté, c'est le parent pauvre. Et d'ailleurs, question, c'est qu'une fois qu'on a obéi à ces 5 sens, c'est tellement le parent pauvre, c'est tellement le grand oublié, le grand invisible de la cuisine française, c'est comment cuisiner ses légumes. Parce qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de grand référent. On peut même pas repomper sur le voisin. Et là, vos maîtres, eux-mêmes, ne les travaillaient pas beaucoup. Non. Ça ne veut pas dire qu'ils ne nous ont pas appris les cuissons.
Tu peux pas te poser.
Là, tu peux pas dire merci Michel Kerrever. Alors, merci pour la cuisson, mais merci pour rien du tout.
Ah oui.
Parce que le chou-fleur, à part le voir passer dans l'ébène bretonne, t'es passé à côté. Donc, comment ça se passe? Comment on réinvente comme ça cette cuisine du légume?
Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que en apprentissage...
Je dirais même comment on l'invente.
On parlait plus facilement d'un beau turbo ou d'une belle poularde que d'un poireau ou d'une carotte, quoi. Alors, donc je rentre dans cette aventure, donc, et... donc bien sûr ça tire à boulet rouge hein. Je me fais donc tu vois mes copains, mes confrères, tout ça, donc les journalistes,
attention, tu fais des conneries, c'est ça?
Ouais. Non mais tu vois, donc, je suis attaqué de partout, la filière bovine, tout donc, on a 3 étoiles qui enlève la viande de sa carte en pleine vache folle. Alors là, c'est un truc qui se fait pas, quoi. Tu vois, sur le mouton à 5 pattes.
Tu des pressions des gens.
Donc tu vas perdre tes étoiles, tu vas perdre tes clients, tu vas tout perdre. Moi je trace. Déterminé, je regarde pas derrière. Je suis déterminé, ouais. Je suis heureux, je suis bien. Alors donc il y a un moment, faut quand même mettre les carottes dans la casserole.
Comment tu fais?
Alors c'est très 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 amusant parce que j'ai défini une cuisine légumière qui n'avait jamais été faite.
Ouais.
Jamais, c'est une invention, hein, c'est pas une réinvention.
Ouais.
Par
ouais, alors, ça. Ben je me suis aperçu avec le temps, parce qu'au début tu tâtonnes, tu cherches et tout ça. Donc je me suis aperçu que je mettais au service du légume tout mon savoir-faire de la cuisine animale.
Voilà.
J'ai commencé à flamber un oignon. J'ai commencé à fumer une pomme de terre. J'ai commencé à cuire une betterave en croûte de sel.
Tu vois,
donc, en fin de compte...
Ça ne se faisait pas du tout à l'époque.
Tu vois, les restaurants de légumes, c'est toujours fadouille et tout ça. Et là, tu as un rôtisseur qui va commencer à braiser une carotte, à rôtir un céleri. Tu vois, et cette cuisine, elle commence à avoir un peu de relief. Elle commence à avoir,
Tu rends le légume gourmand.
Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc je travaille comme un malade. À un moment, je vais quand même prévenir le Michelin que je vais enlever tous les plats qui nous ont permis d'avoir.
Vous êtes allé les voir?
Ben oui.
Ah, vas-y, il faut raconter ça.
Ben ouais, bien sûr. Donc, si tu veux.
Et qui le directeur à l'époque?
Derek Brown.
Derek Brown, ah ouais, un sacré personnage. En
sacré
plus.
Personnage, ouais. Alors, donc, je prends rendez-vous et tout ça. Et,
Avenue de Breteuil.
Avenue de Breteuil.
C'est pas loin. Hein.
Ouais, ouais, ouais. Et donc, il dit, qu'est-ce qu'il veut? Enfin, bon. Et donc, j'arrive et je dis, voilà. Tout ce qui nous a permis d'avoir 3 étoiles, je vais l'enlever de la carte.
Comment il a réagi, lui?
Alors, il me dit, mais vous allez faire quoi? Je dis, je vais consacrer toute la fin de ma carrière aux légumes. Ah! Oh. Il dit ça. Et il a une très belle phrase en partant. Il me dit mais pourquoi la cuisine du légume ne vaudrait-elle pas 3 étoiles?
Ouais, top.
Je dis, cher monsieur, moi, mon choix est fait, faites le vôtre.
C'est ce qu'ils ont fait.
Non, mais ce qui est important, juste et après on revient, faut savoir vraiment effectivement qu'il a attaqué de deux parts à l'époque. Il y a effectivement toute la critique conjoncturelle, c'est-à-dire de la filière bovine qui lui rentre dedans en le traitant « t'abandonnes le navire, t'es un opportuniste, tu nous flingues deux fois ». Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un lanceur d'alerte à l'époque.
Ouais.
Il y a rupture de confiance, car c'était ça. Le problème, c'est qu'il y avait rupture. Et je rappelle, pas que chez les chefs, le public, nous-mêmes, avions une véritable frousse au moment d'aller acheter notre viande. On se dit « mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? C'est le nuage de Tchernobyl, tu vois ?» Pas en France. Bien sûr qu'aussi en France. Et deuxième critique, deuxième front peut-être le plus difficile qui est la structurelle, c'est son public et la critique, dont on le voit, elle a une importance, qui reste pour le moins circonspect. Passard, 3 étoiles, plutôt une cuisine portée sur le carnet, se met à faire du légume. C'est même pas que tu le traites d'opportuniste, c'est que tu dis « il est fou, tu comprends pas, on n'a pas nos codes, on n'est pas habitué à aller dans un restaurant et à avoir une carte entièrement de légumes ». Tu dis « non mais moi il me faut de la volaille ». Donc la critique est curieuse, mais c'est circonspect. Et ce que j'aimerais bien savoir, c'est quelles ont été les réactions du public, parce que c'est quand même lui qui fait une adresse, bien plus que la filière bovine et bien plus que la critique. Comment il réagit lorsqu'il découvre pour la première fois cette carte intégralement légumière, donc radicale?
Alors c'est très partagé. T'as ceux qui partent, puis il y avait des curieux qui restaient. Et c'est un peu qu'on lançait le truc. Quoi.
Au moins, ça a fait le buzz, comme on dirait aujourd'hui. C'est que ça a fait parler et ça a dû attirer des curieux.
Mais il n'y avait pas de marketing dans tout ça. Hein.
Non, mais
tout ça,
comprend.
Ça venait de mon cœur. Hein.
Je ne dis pas que c'est une volonté, ça, on l'a bien compris. D'ailleurs, sur ça,
la
comprend
passion
ça.
Du métier, quoi. Tu vois.
Mais il se trouve que certainement, cette couverture, parce que je m'en souviens de cette époque-là, il y a eu énormément de couvertures. Forcément, ça attire des curieux et ça permet, même si tu perds une partie de ta clientèle, ça en amène une autre, au moins des curieux. Et ça marche parce que c'est bon. Parce que ça... Et c'est là où tu es un visionnaire.
Oui.
C'est que tu as réussi à faire une cuisine légumière gourmande.
Ouais.
Combien de temps entre le moment où tu décides de faire cette cuisine toute légumière et la première carte? Il va s'écouler combien de temps?
3 mois.
Tous les tests.
3 mois.
C'est très court.
Très court. Très, très court. Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé en cuisine? T'as pris légumes par légumes, cuisson par cuisson.
Je bossais jour et nuit. Il fallait que ça sorte, hein, de toute façon. Et puis, parallèlement à ça, si tu veux, donc, en plus de ça, là, je commençais à perdre mon personnel parce que donc, mon sommelier, lui, ça l'intéressait pas de vendre des carottes.
Les associations à ce moment-là, même.
Il y avait du personnel qui restait pas. Donc, fallait recruter, quoi.
Tu doutes, toi, des moments où tu restes convaincu que c'est la bonne direction?
Le végétal?
Ouais, est-ce que tu doutes de ça? Quand tu vois des gens partir, quand tu vois les critiques,
Non, parce que ça vient de mon cœur. Ça aurait très bien pu...
Pas marcher.
Ouais. Mais j'aurais pas eu de regrets.
Ouais, ça c'est important.
Parce que j'ai fait ça.
Avec le cœur, avec les tripes.
Ouais,
et en effet, si ça ne marchait pas, tant pis, c'est que ça t'avait plus à exprimer.
Ouais, ouais. Tu sais que j'avais été attaqué en diffamation par Rungis, hein.
Ça a été...
Parce que j'avais osé dire dans une émission de télé qu'il y avait eu un risque de vache folle à Rungis. Il m'a attaqué en diffamation.
Ça devenait un phénomène de société, c'est-à-dire qu'on quittait la rubrique des pages gastronomiques de la presse pour arriver sur les pages société. Je n'ai pas dit fait divers, mais pas loin.
J'étais interdit de Rungis.
C'est vrai. C'est bien parce que du coup, tu as trouvé une autre façon de t'approvisionner. Après, on en parlera sur les légumes.
Et juste, le côté radical, c'est qu'il est tout seul. Il n'y a pas un chef vraiment qui suit. Ils sont le nez sous la toque. Ils ont quand même le courage des huîtres, hein, parfois, les chefs. En coin, j'espère qu'il va se planter régulièrement.
T'as des soutiens quand même?
Il y avait un très bon papier dans le monde de
Ribaud.
Jean-Claude Ribaud. Ouais. Et Jean-Claude a dit un truc très juste. Il dit, dans sa démarche, Passard, personne ne l'a suivi. Mais en revanche, toutes les cartes des restaurants se sont enrichies de 2 à 3 plats de légumes.
C'est génial, ça. Ouais. Moi, je voulais juste une clarification aussi pour pas qu'il y ait de malentendus. Est-ce qu'il y a une forme d'engagement dans ce choix? Est-ce que maintenant, aujourd'hui, évidemment, le contexte a changé, les enjeux sont différents. Est-ce qu'il y a un engagement écologique? Est-ce qu'il y a un engagement nutritionnel? Est-ce qu'on sait,
un point de vue
écologique, la cuisine végétale a moins d'impact?
Bien sûr. À crever, c'est
ça aussi ça la raison à ce moment-là vraiment, ou c'est vraiment la créativité?
Il y a un moment, si tu veux, quand t'es grand chef, il y a un moment, faut parler santé.
Ouais.
Hein, donc si tu veux, si t'as envie de te désaltérer avec une tomate au mois de janvier, pas moi.
Donc là, c'est la planète. Ouais. Donc là, c'est un vrai sujet.
Hein, et puis surtout, cette permettre cette longévité au fourneau, c'est quand même le respect des saisons.
Ouais.
Hein, donc si la nature a créé des saisons, c'est pour éviter la routine.
Donc il y a quand même un engagement écologique et sanitaire, nutritionnel aussi, parce que la cuisine végétale est meilleure pour la santé.
Ouais.
Mais je voulais juste vérifier qu'il y avait aussi ça dans le moteur.
De manière assez inconsciente, mais aujourd'hui, encore une fois, on le qualifierait de chef lanceur d'alerte.
Ouais.
À l'époque, c'est aussi pris comme ça. Mais tout le monde n'en a pas conscience. Moi, le premier, je regarde un peu, c'est un peu comme une guerre à la Kafka, quoi. Je passe à côté de ça, je comprends pas tellement le débat. Je me dis, il est juste fou, parce que moi, je regarde le côté créatif. Je ne comprends pas la dimension de la saisonnalité, des alertes. Il me faudra du temps pour me dire, mais il a peut-être raison, Passard. Au début, je le prends juste pour un barré. Mais un barré de génie, moi, je fais partie de la bande des curieux.
Ouais.
Mais je ne comprends pas la dimension qui, à mon avis, accompagnait les deux. Bien sûr, son sens créatif, mais aussi, comme tu dis, parce que c'est comme ça qu'a un chef dur, il faut son élan vital, mais il faut son élan créatif, et les deux vont s'ajouter.
Ouais.
Moi, ce que je voudrais savoir, c'est à cette carte originale de 99-2000, est-ce que tu te souviens des deux, trois plateaux thémiques qui vont faire que bien de cette interrogation du public va faire qu'il va être convaincu?
Bah oui, donc ma fondue d'oignon flambée à l'alcool de poire, mon gratin d'oignon parmesan citron,
ouais.
Bon, ma betterave en croûte de sel, la petite raviole dans le consommé de légumes, ouais, tout ça, bien sûr, ouais, c'est
Allez, c'est ça on en prend une,
ouais,
parce que faut écouter Passard quand il nous raconte une recette, il est impressionnant. Comment est venu? Raconte-nous l'anatomie de cette betterave en croûte de sel qui est certainement le plateau thémique de cette carte là.
Bah, cuisine animale. Qu'est-ce qu'on cuit en croûte de sel?
Un bar
de ligne, ouais. Une volaille, un poulet.
Et donc, ça se faisait pas du tout à l'époque. En effet, du cuire légume.
Ah bah non.
Ouais, alors pourquoi? Comment tu dis? Alors très bien, je vais travailler cette cuisson réservée généralement soit au beau poisson, soit à certaines pièces de volaille. Comment je vais mettre un légume et lequel? Pourquoi choisir la betterave?
Bah, par rapport à son volume, par rapport à sa masse, tu vois, c'est toujours assez volumineux. Et donc quand j'ai fait l'essai, donc ça a été délicieux, quoi, tu vois, cette empreinte du
premier coup.
Ouais, du premier coup.
Et avant la betterave, il y a eu autre chose ou pas? Ou tout de suite tu te dis la betterave va rentrer dans la croûte de sel?
La betterave, ouais.
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 Il n'y a même pas besoin de faire des frais.
Et qu'est-ce que ça lui apporte? Alors, fais-nous saliver. Qu'est-ce que ça lui apporte, cette cuisson en croûte
de sel? Le sel a deux missions, si tu veux, c'est de l'attendrir et puis de l'assaisonner.
Mais c'est vrai que c'est exceptionnel. J'ai eu la chance dans une ancienne vie de goûter cette betterave et elle m'a en effet marqué.
Moi, je me souviens d'un copain critique. Il me fait lire son papier. Il me dit, bon, j'y suis allé. Qu'est-ce que t'en penses? Et il me dit, il avait pris la betterave. Il me dit, formidable, Alain Passard qui m'a fait redécouvrir la betterave. Et je dis, ouais, c'est bien, il est bien ton papier. Il me dit, non, j'ai un truc qui va pas. Puis il barre, il dit, non, en fait, ce qui m'a fait découvrir la betterave, alors qu'il n'avait jamais
redécouvrir, c'est ça. Mais on en est tous là.
Donc c'était ça, en vérité.
Ouais, ouais.
Il y a beaucoup de choses qu'on ne redécouvrait pas, mais véritablement qu'on découvrait, on s'apercevait qu'on était nul en avait, lamentable en betterave, qu'on n'y connaissait strictement rien.
Alors j'ai, Alain, une petite première surprise pour toi, il y en aura deux. Une question de quelqu'un qui ne se présente pas, on va voir si tu le reconnais, mais sinon... Je t'aiderai.
Chef Passard, si vous deviez faire un menu avec un seul légume, ce serait quel légume?
C'est Pascal Barbeau.
Ah oui,
tu as reconnu que le talentueux chef de l'Astrance, et surtout qui a été ton élève.
Ah mon Pascal, ouais, c'est un petit frère. Hein, c'est quel talent, quelle modestie, quelle délicatesse, un grand bonhomme. Ouais. Enfin les deux, parce que je les associe toujours avec Christophe. Ils sont connus.
Son associé qui est aussi un ancien de l'Arpège, hein, d'ailleurs.
Ils sont connus ici.
Fait des petits, on va y revenir après, mais il y a énormément de petits passards partout.
Non mais les A, c'est pas mal hein, dans la gastronomie. L'Arquestrate, l'Apicius, l'Arpège, l'Astrance. Si vous ouvrez un restaurant et que vous cherchez les étoiles, commencez par un A.
Conseil de monsieur Emmanuel.
Oh, il est facile, je prends pas beaucoup de risques.
Et alors, si tu devais cuisiner un menu avec un seul légume, donc tout le menu avec un seul légume, hein, si je comprends bien sa question, quel serait
Pascal, faut que tu me donnes la saison.
Bah. Ah, on a enregistré. Bah
oui. Voilà. C'est pas encore rentré dans les
échelles. C'était le piège. On t'a pas piégé, c'est bien. Ah non, bon, là,
puisqu'on est en hiver.
On est en hiver. On diffusera peut-être fin d'hiver, début de printemps, mais voilà. On enregistre fin janvier.
Qu'est-ce que je pourrais imaginer?
Carton rouge.
Ouais. Ah, mon cœur balance un peu entre le poireau et peut-être le céleri rave. Ouais, je les aime tous, hein, mais ouais. Mais ouais, c'est des beaux challenges. Hein,
Le poireau ou le céleri. Ah, ouais. Tu gardes quand même les poissons et les volailles à la carte.
Oui,
pourquoi et quelle place ils ont dans ton menu?
Quand tu vas dans un restaurant de poissons, il y a toujours une viande.
Ouais.
Ah, donc c'est vrai que, tu vois, on a toujours une volaille sous la main.
Bon, on a parlé de l'accueil du public. Donc l'accueil du public, finalement, ça marche. Et les gens se disent, bon, il a raison. Donc t'es plutôt salué par les critiques et surtout par le public.
Ouais, enfin quand même.
Où il y a une période.
Ouais, non, le bateau.
Est-ce qu'il y a un trou à un moment?
Ça coule à pic. Hein.
Combien de temps?
Il y a 6 mois de difficile hein, quand même.
Vraiment, tu vois la salle qui se vide?
Ouais.
Et là, pareil, t'as des doutes ou
non.
Tu dis non?
Non, 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 non. Non, non, je suis bien, je suis en accord avec moi-même. Ce qu'on sort, c'est beau, ça me plaît. Je revis, je redécouvre, je reprends du plaisir, je reviens travailler, je me remets à chercher. Je suis toujours déterminé. Et puis les premiers papiers tombent, on a des bons papiers, des bons articles.
Ouais.
Et le Michelin sort, bah, voilà. Troisième.
Voilà. Moi, je pense que. C'est-à-dire, quel est le point de bascule? Quand est-ce que la salle se remplit de nouveau? C'est le Michelin, c'est les critiques, c'est le bouche à oreille.
Bon, c'est un
peu des trois.
Ouais, c'est un peu tout, mais je pense, et là, bravo, moi, je suis pourtant régulièrement, je l'allume, mais je pense que le fait que Michelin ait maintenu les 3 étoiles,
ouais.
Ça, je ne dis pas que ça a rempli la salle, mais ça a été quand même un juge de paix
ouais. Important,
et là-dessus, chapeau. Parce que moi, je m'attendais
tout le monde
à ce qu'il le sanctionne, à juste ou à mauvais titre, mais je me dis, oh là, ça va être. Et là, Michelin a dit non, on maintient.
Est-ce que tu es surpris toi-même quand tu apprends que finalement tu gardes tout de suite ta 3e étoile, malgré ce changement?
Bah, tu vois, je vais te dire, j'y pensais pas trop.
T'y pensais pas trop?
Non, je travaillais, je faisais mon boulot, quoi.
Ouais.
Je faisais mon boulot, écoute. Ouais, bien sûr, c'était une victoire pour le légume, bien sûr. Ouais, et puis la maison, parce que c'était chaud quand même, hein.
Donc ça dure pas trop longtemps, c'est ça, quelques mois et
6 mois pour une adresse, c'est beaucoup.
Ouais. Bah, d'ailleurs, parlons un peu de business aussi, de rentabilité, parce que c'est une question et peut-être que ça va susciter des vocations. C'est que on le sait, la matière végétale normalement est moins chère que la matière animale. Est-ce que tu gagnes en profitabilité ou d'un moment ou pas du tout?
Alors, écoute,
contre business, j'adore ça.
Oui, bien sûr. Non, parce que si tu veux, c'est une cuisine qui nécessite énormément de main-d'œuvre. Et donc, je suis obligé de engager 2 ou 3 cuisiniers, hein, parce que t'as la découpe, t'as le toilettage du légume, tu vois, ça nécessite vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Plus que
une côte
de bœuf ou, tu vois.
Je cherchais un argument pour susciter des vocations, c'est pas forcément celui-là.
Non.
Ok. Avec du recul, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode? Enfin, c'est plus qu'un épisode. Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais comme ça? Bon, on a compris que tu le referais, mais ouais. Est-ce que tu changerais quelque chose? Tu le ferais de la même manière ou...
Non, je pense que c'est la vraie belle grande idée de ma vie de cuisinier. Ouais.
Ouais. Ouais. C'est important, c'est pour ça que c'est bien qu'on y consacre un peu de temps. Ouais. Parlons maintenant des jardins, parce que ça, c'est une autre évolution qui est très logique avec ce qu'on est en train de raconter. C'est qu'entre 2000 et 2008, tu acquiers 3 jardins, ou plutôt des fermes végétales, pour aller encore plus loin dans ta démarche et maîtriser le produit. Raconte-nous cette ambition, ce projet, comment il se présente, pourquoi faire?
Bah, disons que si tu veux, il y a un moment quand tu rentres dans cette formidable histoire, il faut qu'elle soit complète, quoi. Hein, et donc ça passait par là. Ça passait par là parce que j'avais été donc échaudé par la vache folle.
Ouais.
Hein, et donc là, je voulais vraiment, si tu veux, avoir un produit avec une traçabilité très juste. Hein, et
maîtriser la filière à 100%.
Maîtriser, revaloriser le métier de jardinier également qui avait disparu.
Ouais.
Hein, et puis surtout avoir cette notion plaisir de voir pousser tes légumes.
Ça, c'est une satisfaction, ça, ouais.
Bah, c'est ça, tu vas te passer tes commandes, dire, tiens, voilà, tiens, tel poireau, je connais pas, on peut l'essayer, on le fait dans quel jardin, on le met dans les deux pour voir un petit peu où il trouve son confort de vie, tu vois, ça m'a permis de travailler en confiance.
Ouais.
Le passeport du produit, qu'est-ce qu'il y a de plus beau?
Mais ce qu'il y a d'hallucinant, c'est qu'il installe dans le monde du restaurant un nouveau métier, c'est celui de jardinier. Parce qu'aujourd'hui, t'as le service de salle, t'as la cuisine qu'on voit ici, mais du côté de la Sarthe, il y a une véritable équipe, car je crois que ça commence avec un tout petit hectare à peine.
Ah oui.
Aujourd'hui, il y a combien d'hectares?
7.
Et je crois que c'est un jardinier, d'ailleurs parisien, on m'a dit, qui vous a accompagné au début. Et puis petit à petit, vous allez avoir une équipe, je crois, de salariés. Hein,
au même titre
que le directeur de salle, le chef de rang.
Mais bien sûr,
c'est un vrai prolongement. Donc, et ça, en revanche, ça reste unique. Je l'ai encore très peu vu. Le souci, c'est que ce fameux jardin de chef, c'est devenu, à mon sens, un peu un petit instrument vachard et marketing. On est passé du bon ton.
Ouais, voilà,
tout le monde a son petit jardin. À Paris, c'est ridicule.
Toute petite partie,
moi, j'aimerais bien avoir votre avis, Alain Passard, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus pour passer dans les papiers de magazines déco, pour dire j'ai mon jardin, parce qu'il n'y a aucune logique derrière, ni aucune logique pour pouvoir assurer l'autonomie de ton restaurant en termes de débit et de fruits, ni même aucune logique en termes de saisonnalité. Alors, c'est une bonne chose, le chef a jardin, ou c'est du marketing comme les autres?
Écoute, plus les chefs auront un espace potager pour le maraîchage, ça sera bien.
Toi, la particularité, c'est pour compléter ce que tu dis, c'est que t'as 3 jardins, ça représente quasiment la totalité de ton approvisionnement
C'est
la totalité. C'est ça qui est unique, parce qu'en effet, souvent, on voit des petits jardins qui vont approvisionner un peu.
Mais alors là, je vais te faire un peu l'avocat du diable. Car même si dans la construction de ce que tu as fait à l'arpège, c'est réussi, c'est vraiment l'autonomie, c'est logique. C'était fait dans le cas quasiment d'une auberge parisienne. Mais est-ce que c'est l'avenir des chefs? Est-ce que finalement les chefs, leur vertu, c'est pas de se battre pour la filière sans avoir leur propre jardin, justement dit. Chacun à sa place, le chef avec son équipe salle cuisine, et puis ses fournisseurs, c'est-à-dire une belle filière, paysan, et pas avoir à faim, ça serait la fin quelque part d'une filière. Si le chef fait tout, c'est cette fameuse pub où bientôt il va faire sa céramique.
Il y a de plus en plus de bons maraîchages. Hein.
Bien sûr.
Ah, je pense que c'est à participer d'ailleurs.
Oui.
Je pense que ça a aussi amené des nouveaux maraîchers à travailler quasiment exclusivement pour des filières gastronomiques. Mais ce qui est normal, c'est la locomotive, la vitrine de la cuisine et de la gastronomie française. Je pense qu'il y a beaucoup de jardiniers qui se sont installés dans cet esprit-là.
Et qui travaillent
en parallèle. Là.
Mais parce que toi, c'est ta passion, parce que tu as voulu maîtriser la filière, c'est ton choix. Il y a d'autres chefs qui font d'autres choix d'avoir plusieurs restaurants et qui peuvent aussi faire confiance à la filière. Moi, j'ai coutume de dire souvent chacun son métier. C'est bien d'avoir des filières bien organisées et plus vertueuses. Ça, évidemment, il y a un boulevard, on en parle souvent. Mais toi, ce qui est bien, c'est que c'est ton choix. Plutôt, et on y reviendra après. Plutôt que d'ouvrir un deuxième restaurant, tu dis, je vais aller maîtriser ma filière à 100%. Ouais. Et je vais prendre cette casquette de maraîcher qui te passionne et qui est très complémentaire. Juste un mot sur cette culture aussi, c'est quel type de culture? C'est une culture biologique? Est-ce que c'est de la permaculture? Est-ce que c'est...
Nos jardiniers ont une main qui est 100% naturelle.
Voilà.
Mais personne ne peut se revendiquer bio. Personne. Malheureusement, nous avons un voisinage.
Voilà.
qui ne l'est pas, donc il y a la nappe phréatique, le vent et tout, ça n'existe pas, même aujourd'hui, je sais même pas par rapport aux poissons, au niveau de la qualité de la mer.
C'est impossible.
Bah, la qualité de l'eau, oui, parce qu'on va la qualité de l'eau, la présence de métaux lourds dans un poisson sauvage.
Faire des barrières dans la mer.
Bien sûr. Mais là, au moins, tu maîtrises au mieux. Après, évidemment, tu dépends d'un écosystème, du voisinage, un sol qui a aussi une histoire.
Bah oui.
Mais tu le maîtrises. Et au moins, vous ajoutez pas d'intrants.
Ah non.
Ouais. Ça se passe comment pour un chef comme ça? Donc, tu es resté à Paris, rue de Varennes, c'est tous les jours. Le jardin est dans la Sarthe. C'est combien d'allers-retours par semaine? C'est eux qui vont à vous, j'imagine, pour bien sûr fournir. Mais toi, est-ce que tu mets encore régulièrement les pieds?
Oui, j'étais ce matin. On a un approvisionnement pour quand même un petit peu faire gaffe au transport. On essaie tous les deux jours.
Donc il y a une camionnette, l'Arpège d'ailleurs, qui fait le lien entre tes jardins et le restant.
On a un chaud.
Ça, c'est extraordinaire.
Et est-ce que les visions de ta cuisine, celles que tu penses pour le printemps-été prochain et peut-être déjà pour l'automne-hiver suivant, vont décider de ce que vous allez planter? Selon la configuration, j'imagine il y a toujours des poireaux, des patates et compagnie, mais est-ce que tu dis là, il faut absolument que, parce que moi j'ai envie de travailler je ne sais quoi?
Ah ben mes commandes sont déjà passées pour l'hiver 2024-2025. Hein.
Tu sais.
Ah ouais. Cerfeuil tubéreux, persil tubéreux, capucine tubéreuse, toi, poire de terre, châtaigne de terre, enfin tout. Et on essaie toujours d'avoir des produits qu'on ne connaît pas bien, qu'on n'a pas exploité dans la casserole. Quoi.
Mais alors justement cet apprentissage, tu l'as dit, tu as employé le mot tout à l'heure, j'ai fallu que je fasse mon apprentissage. C'est plus qu'un apprentissage de chef, c'est aussi un apprentissage de jardinier, de botaniste. Comment ça s'est passé? C'est des livres, c'est les contacts, c'est les rencontres? Est-ce qu'on se plonge comme ça, j'allais dire chez Truffaut, à faire les allées et venues dans les semences.
Non,
mais des... comment ça se passe?
Non, c'est des bouquins.
Des bouquins.
Ouais, tu lis, c'est. Et puis, bon, j'ai eu la chance aussi de rencontrer, à l'époque où je cherchais mon premier jardinier, de rencontrer Sylvain, qui est un garçon qui est avec moi, donc depuis.
Sylvain Picard.
Sylvain Picard. Hein.
Salut.
Ouais, qui est
ton jardinier en chef.
Ouais, voilà. Qui est notre jardinier, qui était en poste dans une autre entreprise. Et puis, on s'est rencontrés par hasard, comme ça, je lui ai fait part du projet. Et puis, il est toujours là, ouais. Donc, c'est quand même un peu lui qui donne le tempo.
Ça devient ton bras droit.
Je peux demander un conseil que vous pouvez offrir à nos auditeurs. On demande souvent des livres de cuisine. Est-ce qu'il y aurait un livre comme cela pour rentrer dans le monde du jardin assez facile d'approche, pour un cuisinier ou pour un manager qui peut peut-être pas, qui serait un bon livre? Parce que alors là, dans la cuisine, on est assez bon en termes de bibliothèque idéale, mais alors en termes de jardin, moi, je suis pas. Mais...
Non, il faudra le créer. Ça fait partie de nos projets.
Ah voilà.
Ah, ouais. Un livre d'Alain Passard sur le maraîchage.
Soit mauvais, mais compliqué. Je parle vraiment un livre qui soit du jardin, pas un livre sur la cuisine des légumes, non, mais vraiment qui te dise.
Le jardin nourricier, quoi.
Et puis
le jardin.
Tu comprennes ce que c'est que ces légumes, ouais. Mais vu par une écriture de chef, je pense que c'est intéressant. Il y a beaucoup de livres sur la cuisine des légumes, mais c'est pas pareil.
Ouais.
Est-ce que c'est rentable comme organisation? Parce qu'on imagine, quand même, comme on l'a dit, c'est un nouveau métier, c'est de nouveaux investissements entre le coût du foncier, la main-d'œuvre, la logistique. Est-ce que c'est rentable c'est par rapport à un sourcing externe?
Ouais. Quand je vois aujourd'hui le prix d'une botte de ciboulette ou d'une barquette de framboise sur les marchés, c'est. Ça se tient, quoi.
Ça coûte pas forcément beaucoup plus cher, c'est un investissement, et au moins t'as un vrai bénéfice sur la maîtrise et la qualité des produits.
Ça a pas de prix. Ça a pas de prix.
Ceux qui peuvent se le permettre.
C'est formidable, ça nous a permis de créer des emplois en plus.
Ouais, autre question, mais c'est des questions de novice que je trouve que c'est tellement une matrice qui a changé. C'est la fameuse panique de Vatel. Quand on est comme ça, propriétaire de 3 jardins,
oui.
Si demain il y a une catastrophe naturelle, ce qui peut arriver,
ah oui,
des giboulées, ça existe, c'est ça, la terre.
Mais bien sûr,
c'était jamais à l'abri. Pour un chef, c'est une catastrophe.
Ah ouais.
Est-ce que tu as des filets, des sorties de secours? Parce que quand tu as tes fournisseurs, c'est pas vraiment ton problème. Tu paniques un peu, mais bon, il va falloir que c'est à lui de se démerder.
Tu
as Rungis.
Tu vas chercher ailleurs.
Mais là, comment tu fais?
On est à la même enseigne que les vignerons.
Que les vrais agriculteurs.
Ils prennent un coup de gel fin avril. C'est pareil. Et donc, on refera un petit peu de coquillage.
Comment tu te sens quand tu vas dans tes jardins?
Ah, c'est un moment... c'est très particulier parce que il y a une grande douceur et puis cette relation qu'on a avec nos jardiniers parce que ce sont eux qui sont à la base de notre cuisine, quoi. Il y a beaucoup de chaleur.
C'est indispensable aujourd'hui dans ton travail de création. Tu pourrais plus travailler autrement.
Non, sans mes jardins.
Tu dois voir le produit, tu dois voir la terre, ce qui se passe.
Si je devais fermer les potagers, je crois que je fermerais la maison.
Tu pourrais plus travailler.
Ah ouais. Quand tu as goûté à ce confort, parce que tout est là, quoi. C'est, quand je parle de confiance, travailler en confiance, c'est un confort de vie, c'est formidable. Formidable d'avoir des rendez-vous comme ça, de dire voilà, d'accepter qu'une tomate disparaisse et de la retrouver un an après. Tu vois, ça, c'est ça la magie.
Puis c'est le royaume de l'ultra fraîcheur, c'est-à-dire que ta tomate, ta maturité, une heure après, presque, elle est dans ta cuisine. C'est difficile d'avoir ça autrement.
C'est aussi un vieux rêve de chef, c'est-à-dire avoir un peu la maîtrise de sa production. C'est-à-dire, c'est un instrument quand même, le produit. On parlait de la flamme, on parlait de la sauce, mais le produit, c'est aussi la base. Là, il s'offre un Stradivarius permanent, quoi.
C'est
comme le guitariste qui a sa Gibson tranquille. Il joue plus de la même manière, quand même.
C'est le fruit de beaucoup d'efforts.
Tu fais une autre cuisine.
Tu fais une autre cuisine.
Ah ouais.
La Steinway, c'est quand même pas bon, tant pis.
C'est clair. C'est le fruit de beaucoup d'efforts. Ça a été un grand risque, c'est beaucoup d'audace. Mais je te rejoins. Je pense aujourd'hui un grand luxe et ça doit faire beaucoup d'envieux chez les chefs. Donc voilà, on arrive à la fin de ce troisième chapitre. Dans le dernier chapitre, on va prendre un peu de recul et parler de tes prochains projets. Et on en profitera surtout pour t'interroger sur ta vision du monde de la gastronomie d'aujourd'hui et de demain. À très vite. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appli audio et à partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est important pour nous aider à gagner de la visibilité. Merci et à très bientôt.